le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, et bien nous sommes toujours ici en direct à la Maison de la Chimie où nous avons délocalisé notre plateau, 10e édition du speed dating d'Arkéa. Vous l'avez vu les amis, vous l'avez même entendu, le ministre du Logement Patrice Vergriete a pris la parole ce matin, il nous a donné des directions très claires. Faut-il espérer encore quelque chose de ce gouvernement? On va en tout cas l'espérer. Il a été plutôt offensif. On va attendre les résultats. Accompagné de Fabrice Coustet. Comment ça va, Fabrice?
Bonjour, Sylvain. Bonjour à tous.
Et nous avons sur le plateau, alors quelqu'un qui nous connaît bien, puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises sur notre plateau. Il est directeur développement durable et innovation du groupe Novaxia. C'est Vincent Aurez. Bonjour, Vincent.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver.
Et pour une première, vous êtes accompagné de Aude Landy-Berkowitz sur le plateau. Bonjour, Aude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Novaxia Développement.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. La première question posée par Fabrice Coustet.
Bon, on va faire simple. On va rappeler, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, les métiers de Novaxia, ce que vous faites.
Très bien. Alors écoutez, on a deux métiers parce qu'on fait de l'investissement et on fait de la gestion d'épargne auprès d'épargnants. Donc on fait de la gestion de fonds et on fait de l'investissement et on fait du développement immobilier. Donc tout ça dans le recyclage urbain. On est leader du recyclage urbain depuis 2006.
Alors le recyclage urbain, ça veut dire quoi? On prend des bureaux par exemple, on les transforme, c'est l'idée?
Alors l'idée principale, oui c'est ça, c'est de prendre des bureaux ou des immeubles qui sont vacants et obsolètes et de les transformer leur usage, mais aussi transformer la construction en elle-même, de manière à ne pas artificialiser et puis souvent pour beaucoup de nos projets en tous les cas de les renaturer, on en profite, c'est l'occasion. Voilà.
Ben, ça tombe bien, en plus il paraît qu'on ne va plus au bureau, en tout cas de moins en moins, hein, télétravail est passé par là, ça veut dire qu'il y a une offre abondante de bureaux, on pourra faire de plus en plus d'opérations, vous pourrez
tout
faire de plus en plus d'opérations.
On tire parti un peu de la crise sanitaire parce que c'est vrai que si je parle que l'Île-de-France avant la crise, on était à 2 millions de bureaux vacants en Île-de-France.
2 millions de mètres carrés.
Ouais, 2 millions de mètres carrés, pardon, vous faites bien de préciser. Et puis on a un peu plus de 4,5 millions.
Donc ça a doublé depuis la crise sanitaire.
Ça a doublé et les projections font que ça pourrait aller jusqu'à 10 millions de mètres carrés dans les 5 prochaines années pour l'Île-de-France. Donc c'est un gisement de création de valeur et de développement immobilier potentiel puisque c'est le terrain sur lequel on joue. Mais il y a aussi d'autres terrains comme les friches commerciales ou comme
un friche
industriel et puis les zones commerciales qui sont à redévelopper. Donc beaucoup de sujets qui permettent le recyclage urbain.
Quelle classe d'actifs chez Novaxia où on est principalement sur des classes d'actifs résidentielles?
Toute classe d'actifs, c'est vrai qu'on est principalement sur le résidentiel puisque ça fait partie de notre mission de proposer du logement, notamment en zone tendue. Donc avant tout, c'est le recyclage urbain. Après, on sait aussi développer des projets mixtes et faire des projets sur mesure en fonction des besoins des territoires. Donc c'est souvent des logements avec autre chose. Donc ça peut être du bureau, du commerce, des tiers-lieux, des équipements solidaires. Donc vraiment différentes classes d'actifs.
On avait inauguré à une époque, il me semble, au 44 rue Planchard. C'est bien ça?
Totalement, une opération de transformation
dans le 19e arrondissement,
effectivement,
semble-t-il.
Oui.
Qui était une première. On avait d'ailleurs, il y avait bien sûr tous les élus ministres qui étaient venus à l'époque. Je crois que c'était
Olivia Grégoire et Emmanuel Vargon.
Vargon qui était venu sur le plateau. Une formidable initiative. On parle beaucoup dans le recyclage urbain de l'idée en fait du réemploi à la fois des matériaux. Avec des formules, notamment par exemple, on a aujourd'hui des formules bas carbone très efficaces avec des granulats de récupération. On a des problématiques qui sont liées aux façades aussi, qu'on réemploie de plus en plus, mais aussi à des problématiques de logistique qui sont considérablement réduites, soit par de la construction hors site ou de l'aménagement hors site. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que quelque part, quand on voit les prix de sortie notamment, parce qu'il y a un vrai sujet sur les prix de sortie, est-ce que dans le modèle économique de Novaxia, vous arrivez à vous y retrouver quand on sait qu'aujourd'hui, avec la dégradation du pouvoir d'achat, on est sur une baisse, à mon avis, continue du taux d'acquisition du mètre carré. On le voit dans Paris, puisque symboliquement, la semaine dernière, la quasi-totalité des arrondissements, hormis certains, sont déjà symboliquement au-dessous de la barre des 10 000 euros du mètre carré.
Alors, en ce qui concerne le réemploi des matériaux, on réemploie systématiquement tous les matériaux, évidemment. Tant qu'on peut, évidemment. Et on réemploie d'ailleurs, nous, les bâtiments. Donc, on essaye d'abord de faire une étude de réversibilité, de voir dans quelle mesure on peut le garder et ensuite de réutiliser les matériaux quand il y a de la déconstruction et qu'on transforme. Mais le modèle réside avant tout sur de l'achat à prix décoté, sur du bureau qui était vacant ou obsolète et souvent sur des actifs qui étaient essorés, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on bénéficie de cette décote.
Essoré. C'est-à-dire,
on est dans le langage familier, vous savez, on est dans le recyclage, dans l'essorage.
Oui. Voilà. Quand vous dites essoré, ça veut dire qu'en fait, en termes de valeur.
Non, c'est plus en termes d'usage qu'il est essoré. Voilà. Et le prix, par contre, n'est pas essoré. Il reste évidemment avec une certaine prix, à un certain prix, mais une décote, parce que souvent, quand le bien est.
Et c'est, c'est là que vous faites votre marge. Est-ce que c'est la décote qui permet, dans le modèle économique, c'est hyper important d'avoir un prix cohérent de sortie.
Et évidemment, ça permet d'avoir un prix de sortie qui est cohérent parce qu'on se positionne sur des actifs qui ne trouvent pas de preneur, pas de locataire ou pas d'acquéreur. Donc ça nous permet de bénéficier de cette marge pour le réinjecter dans le bâti. Donc ça, c'est un premier point. Et évidemment, on est après sur le réemploi et sur la réutilisation. Vous aviez une autre question ?
Alors justement, sur la vous avez donné le chiffre de la vacance locative. Alors, à la fois de la vacance locative sur les bureaux, le secteur tertiaire qui souffre énormément. Hein. On atteint, par exemple, à La Défense, des taux que jamais connus de 13, 14, parfois même plus de 15%, ce qui est absolument incroyable quand on connaît l'embattement, mais aussi l'obsolescence des bâtiments. Et l'obsolescence, aujourd'hui, c'est un vrai effet de levier pour le logement des Français, hein, qui est un vrai sujet, puisqu'on est sur un zéro artificialisation nette aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'artificialise plus, et on a une problématique de tension dans les zones tendues, bien évidemment, avec Paris, qui d'ailleurs, paradoxalement, perd des habitants chaque année. Plus de 10 000 habitants qui quittent Paris chaque année. Est-ce que, je vais pas dire que c'est la martingale, mais est-ce que dans le modèle de Novaxia, qui était très innovant dès le début, d'ailleurs, il a mis quelques années un peu à décoller, mais aujourd'hui, grâce à la structuration, vous avez réussi à aujourd'hui occuper la place de leader, bravo. Parce que c'est vraiment une success story, on peut le dire. Hein. C'est moins de 15 ans de
c'est ça, c'est 15 ans.
Voilà, ouais. c'est 15 ans, ça a démarré à Strasbourg, sur finalement un malentendu, puisque quelque part, Joachim Mazan n'était pas porté naturellement sur l'immobilier, hein, pour le dire. Est-ce que ça veut dire que demain, on l'a vu, puisque la foncière de la ville de Paris aujourd'hui travaille sur du BRS, sur du démembrement de propriété pour permettre une meilleure mixité sociale. Clairement, dans votre modèle, est-ce que ça peut être aussi un levier, un outil qui permettra dans les villes, les grandes agglomérations ou les petites agglomérations, de pratiquer une meilleure mixité sociale, de retravailler le bâti pour que tout le monde y ait droit de façon digne et décente. Voilà, pour être très clair.
On fait déjà ce travail parce que c'est vrai que dans toutes nos opérations, on a de la mixité, on a différents types de produits. Et c'est vrai qu'on fait du social, on fait de l'accession, on fait du logement intermédiaire. Donc d'ailleurs, pour parfois des résidences aussi étudiantes, seniors et familiales. Donc on répond à cette mixité qui est indispensable et qui est souhaitée par les territoires.
Oui, Vincent, vous voulez ajouter.
Et pour compléter, vous mentionnez le BRS, on en fait. C'est-à-dire, le hors-site, on explore. Mais pour l'instant, toutes ces solutions, elles sont bien là, effectivement. Il y a des annonces. Mais ce sera des solutions à l'échelle industrielle pour répondre à la crise du logement, peut-être dans quelques années. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y travailler dès maintenant. D'accord. Mais est-ce que c'est le hors-site qui va résoudre les problèmes de coût, de rapidité? Est-ce que c'est le BRS qui va... Sans doute qu'il y a tout un tas de
solutions. Le groupe Nexity a misé énormément dans son développement sur Red Hat, notamment avec l'opération qu'on a d'ailleurs lancée avec Véronique Bédag, qui est une vraie solution. Une solution aussi qui réduit les nuisances sonores, qui réduit les problématiques d'acceptabilité du public des grues et sur les chantiers. C'est un vrai sujet aujourd'hui qui préoccupe les maires, puisque les maires sont la pierre angulaire du dispositif Vincent Reste dans le développement que vous avez. Vous êtes très orienté sur l'innovation, on se connaît bien. Finalement, on voit bien que Novaxia a trouvé son marché et que d'autres, maintenant, emboîtent le pas. Est-ce qu'il faut saluer l'initiative et de se dire, finalement, on était précurseurs et pionniers. Il faut s'en réjouir parce qu'il y a un marché qui s'annonce et tout le monde mise dessus. Et à l'aune d'une crise qui est déjà là, hein, bien évidemment, avec... quand même des chiffres moins drôles, hein. Moins de 40% en production de logements neufs. On va passer au-dessous de 100 000 productions de logements au niveau des bailleurs sociaux, ce qui est absolument incroyable. Est-ce que finalement, vous saluez cette initiative ? Est-ce que vous l'encouragez du point de vue de Novaxin ?
Alors, tout ce qui répondra à la crise actuelle du logement, on salue. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui pour produire du logement en France. Il y a des millions de logements vacants. Pas vacants, mais qui sont en pénurie. Donc, bah,
2025, on a 2 millions de passoires thermiques qui vont être retirées du marché, les lettres G du marché, et entre 2028 et 2034, c'est 5 millions de passoires énergétiques qui vont être supprimées, considérables.
Pour répondre à ça, deux éléments. D'abord, de ne plus être seul, on s'y attendait, mais c'est bien aussi. C'est-à-dire que c'est une confirmation. Ça nous challenge, ce sera mon deuxième élément, mais la première chose, c'est que c'est une confirmation que le positionnement était le bon. Et donc l'expertise gagnée par les équipes Novaxia depuis 16 ans maintenant, bah, elle va avoir de plus en plus de valeur dans les 16 ans à venir.
On l'a même favorisé avec nos partenariats parce qu'on travaille avec 45 copromoteurs, même un peu plus maintenant. Donc c'est vrai qu'on a favorisé aussi à étendre cette façon de concevoir
Vous favorisez le partenariat avec des promoteurs en copromotion.
Exactement.
Est-ce que vous allez jusqu'à l'exploitation ?
Pour le moment, on n'exploite pas. On exploite plutôt en urbanisme transitoire parce qu'on pratique aussi l'urbanisme transitoire quasiment systématiquement sur nos opérations, en tous les cas quand les collectivités sont d'accord et que le site le permet. Mais on est heureux de voir que le modèle maintenant est copié ou en tous les cas s'est développé et que chacun est devenu sensible à tous nos sujets et aux enjeux et que ça nous permet encore plus d'être actif et de pouvoir développer encore plus de projets.
Urbanisme transitoire pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'est pendant le temps des études, des autorisations administratives, quand on dépose un permis de construire, ça prend un certain temps avant de l'obtenir. C'est le fait que le bâtiment puisse être utilisé et mis au service d'associations.
Comme un tiers-lieu.
Comme un tiers-lieu, tout à fait, et on le fait. Et c'est l'équipe de Vincent qui l'anime. Et donc on a tout un réseau d'associations qui viennent selon les différentes thématiques.
Ils ne payent pas.
Ils ne payent pas. Le donnant-donnant, c'est quoi ? C'est vous maintenez les lieux, vous les faites vivre.
Exactement.
Et en échange de quoi, je vous les laisse à disposition.
Exactement. D'accord. Et vous créez de l'impact. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit innovant, impact. C'est le Secours Populaire qui lance une nouvelle activité, qui essaye quelque chose, qui va ensuite pérenniser. C'est une entreprise qui se lance.
Petite question pratique. Est-ce que vous financez aussi l'énergie ?
Non, ils financent l'énergie. D'accord. Néanmoins, en fonction en fait, de l'équilibre économique, pour être très concret. Parfois, ça peut enlever des coûts de gardiennage. Nous, les coûts de gardiennage, on va, c'est de l'argent qui est utilisable pour aider ensuite l'acteur.
Oui, c'est ingénieux, finalement.
Vous nous aviez expliqué, Vincent, qu'un site vide coûte extrêmement cher. En coûts de gardiennage, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est pas atteindre des millions pour des grands ensembles.
Oui.
Et il vaut mieux, effectivement, mettre des locataires, même gratuits.
Exactement. Et s'ils ont besoin d'aide, on sera très heureux de les aider. En fait, tout le monde est gagnant. Ça marche très bien. Pour vous donner un peu le rythme aujourd'hui de tiers-lieu de Novaxia en France, c'est un tiers-lieu par mois qui est lancé.
Donc, actuellement, vous avez combien de tiers-lieux actifs ?
Là, on en a 14 actuellement, de La Rochelle, actifs actuellement.
Avec quoi ? De la culture, du milieu associatif ?
Il y a de tout.
Qui est le profil de celui qui utilise ?
C'est ça qui est incroyable, en fait, c'est toute l'innovation en France. Okay. Vous avez une troupe de théâtre immersif qui se lance.
D'accord.
Vous avez une maison associative à La Rochelle. Vous avez les pompiers qui cherchaient une clinique désaffectée à côté de Lyon. Vous avez de l'hébergement d'urgence.
Alors justement, je voulais vous poser une question. Ouais. Est-ce que vous logez aussi les personnes ?
Alors, quand on en fait, c'est un, exceptionnel. Et deux, c'est uniquement de l'hébergement solidaire. Donc je m'explique. Tous les bâtiments ne s'y prêtent pas du tout. Il faut non seulement que le bâtiment s'y prête, mais aussi que la durée s'y prête pour pouvoir que les gens se réinsèrent ensuite et ce ne soient pas des gens à la rue qui retournent à la rue à la fin, concrètement.
Oui, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement. Je voudrais qu'on revienne sur une question clé. On nous pose la question, justement, du modèle économique.
Oui.
Alors, Novaxia, finalement, a été, on va dire, innovant, puisque vous avez carrément monté un fonds d'assurance autour de la détention immobilière. C'était assez malin. Ce n'est pas une SCPI, Fabrice. Ce n'est pas un EPCI. Je crois que ce n'est même pas un EPCI. C'est vraiment un véhicule assis sur des unités de compte immobilières. Vous l'aviez fait avec le groupe Allianz, qui est toujours dans la course, me semble-t-il.
Alors, Arkéa, notamment.
Arkéa.
Le groupe Arkéa, avec l'assureur vie Suravenir, Generali. Aujourd'hui, ils sont neuf.
D'accord.
Neuf présents.
Combien de dotations sur le fonds ? Un milliard d'euros ?
Il investit environ, donc ça dépend de la collecte. Hein, tous les jours, là, pendant qu'on se parle, il y a des investisseurs qui sont en train d'investir, on l'espère dessus. Mais c'est environ un milliard d'euros d'investissement pour recycler deux tertiaires obsolètes en logement.
On est loin de Strasbourg, quand même.
On est loin de Strasbourg.
On va s'y reconnaître.
Alors, sur le montage, effectivement, ce qui se passait, c'est qu'avant la montée de ce fonds, Novaxia Air,
Premier fonds de nature. Non, mais c'est important. Vous avez été les premiers à innover dans ce fonds. C'est incroyable. Ça a rendu curieux certains en disant pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Bah, tant pis pour vous. Mais c'était extraordinaire comme idée. Hein.
Bah, exactement. Vous vouliez investir, vous, particulier, à partir de 100 euros pour produire du logement dans votre assurance vie.
Oui.
Ah, oui. Alors, je vous le vends pas. On n'a pas le droit. Attention. Rien n'est garanti. Non. Les performances ne sont pas garanties, etc.
Oui, mais enfin, ce sont des unités de compte. Et les unités de compte, par nature, ne sont pas garanties. Vous les avez, et vous avez trouvé le support.
On a trouvé le support et aujourd'hui, ça fait quelques années désormais que c'est lancé, on a confirmé que le modèle économique projeté était vérifié l'année dernière. Les objectifs de performance ont été atteints. Ça ne veut pas dire que les performances futures seraient garanties. Néanmoins, on maintient nos objectifs de performance. Donc aujourd'hui, le modèle de bureau en logement, de tertiaire obsolète en logement, ça marche, c'est rentable. Et là, on est sur un modèle économique privé. Qui fonctionne à l'échelle.
Donc vous avez réussi une équation difficile à résoudre, effectivement, et d'ailleurs le gouvernement n'y est pas encore arrivé, c'est de favoriser l'accession à la propriété pour certains types de populations, de ne pas avoir d'exclusive au niveau territorial sur les bâtiments obsolètes, à la limite, plus c'est tordu, mieux ça vous intéresse, même s'il faut désamianter, même si... Ah, non, mais c'est incroyable. Là où tu as des promoteurs qui jettent l'éponge, on a effectivement Novaxa qui prend le relais. Vous le faites en plus, vous n'êtes pas bégueule, puisque vous le faites aussi en copromotion, donc vous êtes consenté à partager lorsqu'il le faut. Justement, je me posais la question, ça serait dommage que vous n'alliez pas au bout de la démarche dans l'exploitation du
on
parc.
Y pense. Justement, du parc. C'est drôle vous que vous disiez ça parce qu'on en parlait tout à l'heure tous les deux avec Vincent, donc on y pense. On se dit
une administration de biens à l'échelle industrielle, ouais. Avec la vision de Novaxa, ça serait
on se dit, c'est vrai qu'on est sur toute la chaîne de l'immobilier, depuis la collecte jusqu'à l'investissement, jusqu'à la réalisation, et en passant par l'urbanisme transitoire, et que c'est peut-être la seule petite clé qui nous manque.
Vous pourriez même
encore,
intégrer le diagnostic de performance énergétique dans vos trucs. Vous avez déjà des BET qui travaillent pour
parce qu'on le fait déjà systématiquement. On étudie la réversibilité systématiquement. De façon
vous avez embauché des architectes, vous avez tout le monde, vous avez des aménageurs.
Tout est fait. Et c'est vrai qu'en principe, plus le sujet est complexe, plus on prend de plaisir. Et c'est vrai qu'on a souvent, nous, des sujets très, très complexes qui nous sont proposés et sur des temps longs. Donc, on travaille beaucoup avec des modifications de PLU pour changer l'usage. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qu'on aime bien. Mais l'exploitation, c'est un vrai sujet de réflexion.
Dernière question, Fabrice Coustet.
En mode conclusion, on a bien compris que voilà, on pouvait profiter des bâtiments essorés pour les réhabiliter, les reconstruire.
Je pense que ça va être la bonne baseline dans l'exploitation du podcast, effectivement. Non, mais vous avez raison, c'est intéressant d'y penser. C'est en fait là où l'usage finalement a acquis son niveau de finition totale sur l'occupation de l'immeuble. Mais on a un immeuble qui est placé et qui est très bien placé. Moi, j'ai vu l'opération qui avait été faite à Bagnolet, me semble-t-il.
Oui.
T'es pas très loin de chez moi, je trouve ça assez remarquable. Ce que je salue aussi, c'est l'action sociale qui a fait Novaxa, parce que je ne sais pas si vous le savez, Fabrice Coustet, mais ça a été une des premières entreprises de cette nature à devenir entreprise à mission. Et donc ça veut dire que vous avez aussi emboîté le pas en termes d'ESG, en termes de RSE.
Oui.
Question, à quand l'introduction en bourse de Novaxa?
Alors, déjà...
Avant, on va essayer d'être déjà référencé en taxonomie, parce que c'est vrai qu'on a à cœur d'être vraiment leader sur le sujet du développement durable et sur tous les sujets, à la fois sur l'épargne et sur l'immobilier. Mais pour l'entrée en bourse, je te laisse, Vincent.
Moi, ce que je peux vous dire, je vais bien entendu
pensez,
pas...
Bien sûr.
Alors, déjà, ça ne serait pas à nous de poser la question, mais au président fondateur. Mais par ailleurs, ce que je peux dire pour les années à venir, au-delà de ces considérations-là, c'est que vous avez parlé d'innovation, vous avez eu la gentillesse de dire le mot leader, etc. Ce qui est sûr, je ne vais rien vous apprendre, pour rester en tout cas en avant, il faut non seulement courir vite, mais courir plus vite que les autres. Et donc sur l'innovation et l'immobilier, il y a encore un champ des possibles extraordinaire, c'est ce qu'on entend aujourd'hui aux conférences. C'est toutes les initiatives qui sont prises par nos partenaires promoteurs. Et on est convaincu, que ce soit sur l'exploitation, que ce soit sur plein d'autres diversifications, qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer ensemble pour la pénurie de logement, mais aussi l'immobilier ne se résume pas qu'au logement. Pour tout ce qui est science de la vie, on voit relocalisation d'industrie aujourd'hui en Europe, en France. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses là-dessus? On a commencé, mais on peut aller beaucoup plus loin.
Ouais. Alors on nous pose la question, alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire de publicité comme ça gratuite, mais on peut quand même aller sur le site de Novaxa.
On peut tout à fait aller
www.novaxa.fr, tout simplement pour en savoir plus. Merci d'être passé par le plateau. Vincent Rez, je rappelle que vous êtes le directeur développement durable et innovation du groupe Novaxa. Et j'étais ravi de recevoir Aude Landy-Berkowitz, directrice générale de Novaxa Développement. Pour revenir nous voir, Aude.
Merci. Bah, écoutez, venez nous voir en tant que voisin déjà.
Ah,
voilà. à notre siège.
Avec grand plaisir, longue vie à Novaxia et un petit clin d'œil à son fondateur, Joachim Hazan. Il est exactement 10h57, bientôt 11h, on a les infos. Et on enchaîne tout de suite ici au 10e speed dating d'Arkea avec Fabrice Coustet.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.